Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Piovesan, journaliste AEF Info, et je suis accompagnée aujourd'hui de Bernard Amanantsou, ancien directeur général d'HEC Paris, qui représente la FNEJ, pour interviewer Sébastien Tran, le nouveau DG d'Audencia. Bonjour Sébastien, bonjour Bernard.
Bonjour.
Bonjour Sarah, bonjour Bernard.
Alors un petit mot pour commencer sur votre parcours, Sébastien. Vous avez obtenu un doctorat en économie industrielle à l'Université Paris-Dauphine en 2003, qui portait sur, je cite, « l'intermédiation électronique et la structuration des filières industrielles », c'est bien ça ?
Tout à fait.
Puis une HDR à l'Université de Rouen. Vous avez fait toute votre carrière dans des business schools, où vous prenez assez vite des fonctions administratives. Excellia d'abord, en tant que directeur académique, puis l'EM Normandie comme doyen de la faculté, ISC Paris en tant que DG adjoint, et l'EMLV au pôle Léonard de Vinci comme directeur d'abord en 2017, puis DG adjoint du pôle et enfin directeur général. Et puis en janvier 2024, vous êtes recruté comme DG par Audencia. Donc vous avez eu une multitude d'expériences dans ce monde des écoles de commerce depuis 20 ans tout juste. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce milieu pour y rester comme ça depuis si longtemps et qu'est-ce qui vous déplaît le plus ?
Alors ce qui me plaît, c'est que c'est un secteur qui est en pleine transformation. C'est-à-dire qu'on a une évolution au niveau des écoles, de la concurrence, de la pédagogie, sur l'international. Donc c'est un secteur aussi où on trouve un peu de sens encore. Et ça, c'est un élément, je pense, assez fondamental puisque j'avais hésité à être consultant au départ de ma carrière. Il se trouve que voilà, j'ai choisi l'enseignement pour cette raison. Ce qui me déplaît peut-être le plus, on va dire, dans le secteur, c'est, on va dire, une forme de concurrence très exacerbée qui se retrouve et finalement avec parfois des pratiques qu'on peut juger comme étant discutables et surtout parfois un impact quand même assez fort sur l'orientation des étudiants ou des familles. Et on sait que voilà, c'est quand même très important pour l'avenir du pays finalement d'avoir un système éducatif fort.
Et en 20 ans, vous avez eu l'impression que ces traits de caractère avaient été grossis, exagérés ?
Ah oui, moi, je pense qu'en 20 ans, et c'est le cas, je pense, pour beaucoup de directeurs qui sont à la tête d'établissements, c'est qu'on voit cette intensification de la concurrence très très forte, qui s'accélère, des changements de modèle économique, et je pense qu'on y reviendra, à mon avis. Et puis, je pense aussi, ce qui est compliqué, c'est aussi l'évolution de la réglementation, puisque vous avez effectivement des accréditations nationales et internationales, et puis des positions aussi qui soient prises par le ministère d'enseignement supérieur de la recherche ou d'autres instances qui peuvent aussi induire des orientations, des comportements, des choix stratégiques qui sont quand même de plus en plus complexes.
Alors vous êtes arrivé à Audencia alors que l'école sortait à peine d'une crise gravissime qui durait depuis 2022. Qui a révélé de nombreux cas de burn-out, de harcèlement, de mal-être chez une partie des personnels. Une situation qui a été résumée sous le vocable de « management toxique », ce qui n'est pas neutre pour une école qui entend enseigner le management. Depuis, un audit externe a été réalisé, beaucoup de managers ont été remplacés, l'organisation a été revue, la direction générale a été renouvelée. Mais pour revenir juste en quelques minutes sur cette crise, comment vous, venant de l'extérieur, vous en avez analysé les raisons ? Qu'est-ce qui, au fond, a dysfonctionné à vos yeux ?
Alors, je pense que... Alors déjà, ça, quand je suis arrivé, il y avait quand même déjà un climat qui était quand même un peu meilleur, puisqu'il y avait eu un travail de fond qui avait été mené. Donc, c'est un élément important. Les raisons, on les a forcément identifiées dès le départ, parce que c'était important aussi d'agir assez vite. C'était, je pense, aussi un fonctionnement très en silo, pas forcément qui prenait bien en compte l'ensemble des parties prenantes. Et je crois qu'il y a eu aussi, et on y reviendra, sur le plan écosse, énormément de projets qui ont été lancés, finalement, qui ont été très consommateurs de temps et d'énergie pour les équipes. Et on a parfois, sans doute, pêché parce qu'on aurait peut-être dû arrêter certains projets plus tôt ou en démarrer certains plus tôt.
Trop d'ambition, trop de charges de travail sur les personnels ?
Oui, je pense que c'est... Alors, c'est pas tant qu'il y ait une charge de travail, je pense que c'est plus un pilotage en mode projet qui a vraiment manqué pour un moment se dire bon bah là ça on arrête, ça on décale, ça on reporte. Et c'est vrai que moi quand j'ai fait le constat sur le plan Écosse, on avait quand même plus de 60 projets en fait qui avaient été lancés, ce qui est énorme pour un plan stratégique en 5 ans. Donc on a fait ce travail un peu de revue des portefeuilles de projets et on a effectivement retravaillé complètement l'organisation indépendamment des personnes qui ont parfois changé de poste ou qui ne sont plus là. On s'est vraiment attelé à complètement modifier les pratiques, l'organisation. Voilà, on a tout revu, et ce qui a permis quand même aussi, voilà, d'avoir un pilotage beaucoup plus fin, qui permet aussi de rassurer les équipes aussi, en tout cas en termes de gestion et de pilotage.
On va rester sur cette idée de plan stratégique. Vous vous voyez où dans 5 ans ?
Alors nous, on se voit comme une école forcément européenne, parmi les meilleures, et avec des implantations internationales qui seront plus nombreuses que celles qu'on a là. Parce qu'on a une conviction, c'est qu'effectivement, le développement, en tout cas d'Audencia, ne passera pas uniquement que par le marché français. Compte tenu des facteurs démographiques, concurrentiels, il nous semble important aussi...
Mais c'est pas nouveau ça, non ?
C'est pas nouveau, mais encore une fois, je pense que ce qui est le plus important, c'est la mise en œuvre. C'est pas tant l'idée que la mise en œuvre. Et je pense que ça, c'est un élément pour moi qui est fondamental. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie qui est écrite sur le papier. En fait, la valeur ajoutée réelle, c'est la mise en œuvre et le déploiement.
Alors, quand on parle stratégie, quand on regarde la stratégie d'Audencia, il y a d'abord quelque chose qui frappe, c'est qu'on n'arrive pas à trouver votre budget. Alors, il n'y a pas de stratégie sans budget. C'est inquiétant pour un prof de stratégie, non ?
Alors moi je l'ai le budget, donc si ça peut vous rassurer Bernard en tout cas. Donc nous on a un budget et on a un pilotage financier bien entendu du déploiement du plan stratégique Écosse. Donc pour nous en tout cas ça fait partie des indicateurs aussi qu'on a souhaité mieux mettre en tout cas en œuvre. C'est-à-dire ce pilotage de projet il passe aussi par un meilleur pilotage budgétaire compte tenu aussi de l'ensemble des projets qui ont été lancés et qui sont forcément coûteux aussi à mettre en œuvre. On peut parler du campus de Paris, mais pas que ce projet-là, effectivement, le déploiement de Gaïa aussi. Donc pour nous, ça fait partie des éléments qui sont importants, effectivement, de suivre. Mais ce budget, en tout cas, il est piloté, puisqu'en plus, c'est quelque chose qu'on a souhaité aussi mettre en œuvre, c'est un comité aussi d'engagement au niveau du conseil d'administration d'Audencia, depuis que je suis arrivé. Moi, j'ai dit justement, pour éviter aussi, finalement, que ça soit juste resserré au niveau d'une direction générale, je pense que c'est important d'avoir des garde-fous, et c'est quelque chose qu'on a mis en place au niveau du conseil d'administration et on était pleinement alignés. Donc en tout cas, voilà, il y a un contrôle budgétaire puisqu'on ne trouve pas notre budget parce qu'il est aussi consolidé avec les comptes de la CCI de Nantes qui est lié à notre statut, où là on a différentes effectivement, activités et filières.
Et comment vous arrivez justement, alors quelle que soit la raison, j'entends la raison, mais un de vos piliers dans le développement stratégique, c'est la transparence et la RSE. Mmh. Moi, ça m'a un peu surpris que vous, entre guillemets, occultiez la visibilité de ce budget.
Oui, mais alors en tout cas, il est pleinement partagé en interne, donc il n'y a pas de... Voilà, on ne cache rien. C'est juste qu'effectivement, on considère que nos comptes étant consolidés avec ceux de la CCI et d'autres entités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les comptes d'Audencia, c'est l'ensemble des entités de la CCI, sont effectivement remontés et consolidés. Donc, voilà. Mais par contre, au niveau du personnel, ils ont accès à l'ensemble des éléments financiers.
Alors, rentrons un peu dans le détail quand même. Le dernier plan stratégique lisible, enfin, qu'on a pu voir, il prévoyait pour cette année 100 millions d'euros. Mmh. On dit que vous n'y serez pas. Et ce qui est intéressant, c'est de combien vous n'y serez pas et pourquoi vous n'y serez pas, qu'est-ce qui va manquer ?
Alors, dans le plan Écosse 2020-2025, pour donner les chiffres et être transparent, on était sur un objectif de 10 000 étudiants et un budget de 100 millions d'euros. Je pense qu'on va terminer l'année 2025 aux alentours de 90 millions d'euros. Donc, en fait, on a un delta de 10 millions d'euros et on sera plus proche des 8 600 étudiants. Donc, en fait, ce qui manque, en fait, c'est le nombre d'étudiants pour aller jusqu'à 10 000. Après, il n'y a pas de remise en cause de la santé financière de l'école, puisque nos fondamentaux sont très sains. On n'est quasiment pas endetté. Et puis surtout, on est propriétaire d'une grande partie de nos bâtiments. Enfin, voilà, donc, on n'a pas ce sujet-là. Mais néanmoins, et vous serez peut-être à m'interroger sur la question, c'est toujours la question aussi de cette fameuse taille critique dans les écoles. D'autant plus que nous, on en a pleinement conscience et qu'il faille... développer aussi cette taille d'Audencia, puisqu'on est quasiment la plus petite école du top 10. Alors, ça veut dire qu'on est assez efficace.
Justement, sur cette question de taille critique, prenons quelques instants pour commenter les rumeurs, alors, fondées ou infondées, sur le fait que, visiblement, tout le secteur vous regarde avec les yeux de chimène. Tout le monde a envie de fusionner avec vous, ou tout le monde prétend avoir envie de fusionner avec vous. Alors, qu'en est-il exactement ?
Alors nous, moi je vais parler plutôt de ma vision, je considère qu'un projet de rapprochement, quel qu'il soit et avec n'importe quelle école, c'est un moyen et pas une finalité. Je pense que c'est la pire erreur de penser à ça. Après le sujet, il est clairement sur la table et il n'y a pas de sujet tabou, c'est-à-dire que dans l'élaboration du futur plan stratégique, c'est une des options qu'on regarde. Voilà. Et ça, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire.
Mais vous pouvez nous dire si vous le regardez, si vous l'envisagez, ou bien si vous êtes déjà singulièrement avancé dans les négociations. Ne nous dites pas avec qui, mais...
Non. On regarde avec attention l'intérêt déjà d'un rapprochement, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger. Je trouve qu'on a parfois un angle un peu, voilà, qui est peut-être pas forcément bon, c'est qu'on raisonne en taille critique et en nombre d'étudiants, mais ce qui est important, c'est la profitabilité, la rentabilité. Alors, plus profitabilité, parce que c'est notre statut ESC, donc nous, on n'est pas dans une logique de rentabilité de nos actifs. Donc, ça fait partie des options. On regarde, on pèse le pour et le contre. Après, pour l'instant, là, on est plutôt au stade vraiment d'études. Mais encore une fois, je trouve que ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga d'un plan stratégique. Notamment, quand on regarde les opérations précédentes en France ou à l'international, si vous regardez les dates, les données de manière assez précise, c'est-à-dire les classements, la santé économique, c'est pas forcément voilà, ce qui vous donne une pérennité à 15-20 ans, en tout cas. Voilà. Et puis, après, c'est aussi, pour être très transparent avec vous, des questions aussi en lien avec la gouvernance aussi de l'école. On a un conseil d'administration, il n'y a pas que la CCI, hein, parce que c'est vrai que souvent on a un prisme ESC égale CCI, mais on a d'autres administrateurs. Donc en tout cas, ce projet, un projet de rapprochement est en tout cas étudié, mais parmi d'autres options.
D'accord. Alors si on oublie au moins temporairement le scénario avec des rapprochements, quels vont être vos grands axes dans les 5 ans à venir pour vous développer ? En termes de revenus, en termes de... Oui. Quels sont vos grands axes ?
Ah, je ne vais pas être très original, je sens déjà que vous allez me faire ce constat, mais on a en tout cas quatre... Moi, je crois déjà à quatre axes importants. Alors, l'executive education, forcément, parce qu'on voit qu'effectivement, les écoles sont relativement absentes, même si c'est un marché qui est compliqué.
Alors, donnez-nous un peu la déformation. Quel est le pourcentage aujourd'hui et qu'est-ce qui devrait être dans 5 ans ?
On est aux alentours de 5 millions d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur sur l'executive education, donc... Ça reste assez faible, en tout cas pour Audencia. Je pense qu'on a un potentiel de multiplier par 2 ou 3, en tout cas, ce chiffre d'affaires en formation continue. Il y a forcément l'international. Et alors là, pour le coup, c'est vrai qu'on a de gros progrès, à mon avis, qui sont envisageables, parce que je pense qu'on recrute assez peu d'étudiants internationaux, je pense en France. Sur nos campus en Chine, en tout cas, il y a un très très bon développement. Mais en France, quand on regarde nos chiffres par rapport à la concurrence, je pense que là, il y a encore une marge de progrès. Et après, moi, je crois aussi beaucoup à cette idée de diversification aussi, parce que si on veut maintenir et conforter notre position dans le top 10, voire gagner des places, même s'il ne faut pas être obnubilé par les classements, je pense que la sélectivité du programme Grande École ou de la Business School, elle passe aussi par le fait de travailler aussi sa sélectivité et donc forcément d'aller chercher d'autres sources de revenus. Donc on est aussi en train de regarder. On a Sciences Com, là, par exemple, qui est une école de communication. Là, on lance le bachelor au mois de septembre à la rentrée. Et c'est quelque chose qu'on aurait sans doute dû faire plus tôt, quand on voit effectivement l'appétence en tout cas des étudiants. Et on a d'autres idées de développement, en tout cas de diversification sur d'autres secteurs, en tout cas d'autres verticales.
J'ai dû en louper un, j'avais entendu 4.
Oui, et le quatrième aussi, qui est pour nous important, c'est de développer quand même le marché en Ile-de-France, parce que, qu'on le veuille ou non, hein, c'est quand même 35% des étudiants de l'enseignement supérieur. Et on voit que sur Paris, en tout cas, on a un développement assez fort, assez rapide. Et on voit qu'à mon avis, ça sera un relais de croissance, en tout cas pour les prochaines années. Donc là aussi, il y a des choses à faire en termes de programme, mais aussi en termes de formation continue.
Et alors, ce futur plan Strat, vous nous le présentez quand ?
Le futur plan Strat, on est en train de travailler dessus. Donc là, on s'est fixé octobre 2025, donc pour l'annoncer, sachant que c'est un plan voilà, qui sera communiqué aux équipes sans doute un petit peu avant. Et puis, pour un lancement vraiment officiel, on va dire au mois d'octobre. C'est un peu la date qu'on s'est fixée. Après, sur les plans stratégiques, alors là, je vais être un peu à... peut-être contre-courant, mais c'est vrai qu'un plan stratégique, moi je dis toujours aux équipes, attention, c'est un plan stratégique, mais il n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on le révise tous les 12 à 18 mois. Moi, je discute avec beaucoup de chefs d'entreprise d'autres secteurs d'activité. Je veux dire, le plan stratégique, ça devient un concept très théorique et de plus en plus théorique. Et je pense qu'il ne faudra pas s'interdire aussi de se dire que c'est quelque chose qui va évoluer, qui va peut-être être modifié en fonction aussi de ce qui va se passer dans le secteur.
Vos positionnements, là, depuis 5-10 ans, c'était beaucoup la RSE, les transitions et puis l'hybridation des disciplines, avec l'ingénierie, avec le design, avec l'alliance que vous formez avec Centrale et l'école de design. Est-ce que ce n'est pas un peu devenu mainstream aujourd'hui, ces deux positionnements ? Est-ce que vous allez les garder ? Est-ce que vous allez les remodeler ?
On va les garder, on va les renforcer. Ça, c'est un élément important. Alors, même si c'est mainstream, mais c'est vrai que Ça fait partie aussi des éléments qu'on a pu observer dans le secteur, c'est-à-dire que beaucoup d'écoles sont positionnées sur ces thématiques. Après, moi je reste assez convaincu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les questions des transitions, sur le domaine de l'hybridation, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et puis on ne s'interdit pas aussi voilà, de développer d'autres formes d'hybridation aussi, avec d'autres acteurs.
Du style ?
Ah bah ça, je ne peux pas vous le dire, vous le verrez au mois d'octobre.
Bon, pas l'ingénierie, pas le design, encore autre chose ?
Il y en a d'autres, il y en a d'autres heureusement, mais dans cette logique de diversification dans le modèle éducatif qui est le nôtre, ça nous paraît être un élément important, notamment pour préserver, voire augmenter cette sélectivité sur la partie business school.
Quel avenir pour Gaïa ?
Alors Gaïa, moi j'ai une conviction assez forte, c'est que les questions de transition en termes de formation, elles seront plus sur la partie executive education que formation initiale. Donc là, on a lancé un executive master Gaïa, on voit qu'il y a une tendance à avoir des formations aussi de plus en plus courtes, donc c'est des choses qu'on voudrait beaucoup développer autour de Gaïa. Moi je pense que l'avenir de Gaïa, il est plutôt du côté des entreprises que de la formation initiale. Je crois assez peu au modèle de création de programmes en formation initiale post-bac. On a tous fait beaucoup de travail sur nos programmes et l'ingénierie pour intégrer les questions de RSE, développement durable, mais la question elle va se poser surtout après avec ce qui est en train de se passer. Tout le monde est parti aussi sur les sujets d'intelligence artificielle en occultant complètement, et j'avais le conseil stratégique sur la partie RSE développement durable avec des acteurs très intéressants externes la semaine dernière, en disant bah oui mais l'IA ça va consommer énormément d'énergie, ça va poser des gros problèmes effectivement aussi d'accès à certaines ressources, ça va créer aussi peut-être une fracture numérique et une vraie fracture numérique pour le coup, et donc voilà c'est des sujets sur lesquels nous on pense pouvoir se positionner de manière assez légitime.
J'ai une question sur votre rapport au territoire. Audencia, c'est une école donc qui est née à Nantes en 1900, à l'initiative de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Vous me coupez si je me trompe. C'était l'ESC Nantes à l'époque. Elle a longtemps été une association gérée par un syndicat mixte. Il y avait la CCI, il y avait aussi la ville de Nantes. Et puis en 2018, elle a adopté le statut de EESC, donc établissement d'enseignement supérieur consulaire. Finalement, quel rapport cette école-là entretient-elle avec son territoire ? Et est-ce que la CCI est encore votre acteur de référence ?
Il y a un fort ancrage territorial, mais qu'on a peut-être aussi un petit peu perdu et qu'on est en train de retravailler aussi sur notre territoire. La CCI, effectivement, alors il y a deux CCI, hein, parce qu'il y a Nantes, Saint-Nazaire et la CCI Vendée, alors 95% et 5% notamment du capital. C'est des acteurs importants parce que au-delà finalement du fait qu'ils sont dans notre gouvernance, c'est aussi des acteurs qui sont des vrais hubs de connexion. C'est-à-dire que là, par exemple, là, on voudrait travailler avec beaucoup plus d'entreprises en formation continue. Continue sur la partie Vendée, on travaille de concert avec la CCI Vendée là pour le coup. Donc c'est aussi un facilitateur de mise en relation. Et puis, alors moi quand je suis arrivé à Nantes, alors c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai qu'on va beaucoup parler du jeu à la nantaise, hein, pour ceux qui aiment le foot. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a une forme d'entraide, de solidarité entre les différentes institutions et les collectivités, ce qui est assez appréciable. Alors ça crée de la difficulté aussi, parce que c'est plus complexe forcément. Parfois pour avancer ça prend un peu plus de temps, mais c'est en tout cas... pour nous un acteur important de référence et pour lequel, pour moi, avoir connu d'autres modèles et de statuts juridiques, et je les ai tous connus, je crois, jusqu'à maintenant, présente aussi un certain nombre d'avantages. Après, le passage en statut ESC, effectivement, en 2018, a été fait pour un choix qui n'était pas forcément peut-être suffisamment travaillé, parce qu'au départ, on s'était dit, bon, il faut qu'on renforce l'ancrage territorial, il faut qu'on aille plus loin. Mais c'est vrai que le statut ESC, on voit bien, toutes les écoles en discutent, est aussi complexe, par exemple, pour faire rentrer d'autres personnes ou d'autres acteurs dans le capital, puisque vous ne pouvez pas verser de dividendes, quoi.
Il vous satisfait ou vous pensez qu'un jour, il faudra passer à autre chose ?
Alors c'est aussi quelque chose qu'on regarde avec la CCI. On regarde est-ce que le statut qu'on a pour les prochaines années, c'est quelque chose finalement qui nous sert d'un point de vue stratégique. Après moi j'ai connu les trois statuts différents. Chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Moi je trouve que ce statut-là nous convient bien. Je trouve que c'est aussi un gage de sécurité pour l'école. Je le rappelle parfois au personnel qui a effectivement pas connu d'autres statuts, mais c'est aussi un statut... où vous avez, entre guillemets, un actionnaire qui a vraiment une vision de service public et qui est là aussi pour défendre les intérêts du territoire. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc après, est-ce que c'est compatible avec d'autres formes de développement? On peut aussi innover dans les statuts juridiques. On n'est pas non plus contraint de se dire qu'on a un seul statut juridique. Dans ma précédente expérience, on avait deux statuts juridiques qui cohabitaient. Enfin, voilà, donc
au Paul Léonard de Vinci, oui, effectivement. Un mot avant de donner la parole de nouveau à Bernard. Sur Paris, Audencia est une école qui est arrivée à Paris assez tardivement par rapport au marché. 2022-2023, un nouveau campus arrive à Saint-Ouen. Et puis 2025, vous n'êtes toujours pas dans ce campus-là que j'avais visité à l'époque. Que s'est-il passé ?
Il s'est passé qu'on était... le campus que vous aviez visité en 2023 devait être en fait temporaire pour être sur un projet de construction d'un nouveau campus. Il se trouve qu'un certain nombre de facteurs ont fait qu'on a modifié notre choix. Entre les taux d'intérêt qui ont augmenté, entre le coût de la construction, entre notre modèle économique, et puis après une analyse d'un certain nombre de critères. Donc on s'est dit qu'on allait rester dans le campus finalement qui devait être provisoire, qui fait quand même plus de 6000 m², qui est au pied de la ligne 14, qui sera notre campus définitif. Donc là, en fait, on est en train de faire des travaux pour le mettre aux normes ERP, avec un objectif d'atteindre 2400 étudiants d'ici 2 ans. Voilà, donc c'est un
là, vous en avez ?
Là, on est sur 1150 étudiants sur le campus, en tout cas transitoire là, qu'on occupe. Et en fait, c'est un développement extrêmement rapide, puisqu'on est passé quasiment de presque rien à 1150 en 2 ans.
On va revenir un petit peu sur votre parcours. Sarah a rappelé qu'en fait, vous avez eu plusieurs expériences, et notamment des expériences de direction dans des structures juridiques différentes. De quelles leçons tirez-vous de ces différentes expériences? Et en particulier, zoomons sur ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est la différence entre votre fonction de DG aujourd'hui dans la structure ESC par rapport à ce qu'elle était au pôle Léonard de Vinci, c'est-à-dire dans une structure qui était notamment privée, enfin, ou en partie privée?
Alors, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça, parce que je trouve qu'il y a une forme d'enjeu qui commence à se rejoindre des deux côtés. C'est-à-dire que, on va dire, les groupes privés ont besoin de faire de plus en plus d'académiques pour assurer une forme de légitimité. Nous, on a besoin de travailler de plus en plus une logique de rentabilité dans nos modèles, même si on est ESC. Donc au final, j'ai pas...
On dit souvent qu'il y a quand même une grande différence, c'est l'importance de l'EBITDA.
Oui.
Alors,
même si au pôle, moi, j'étais beaucoup plus concentré sur la structure associative où il y avait l'école d'ingénieurs et l'école de management, moi, ce que je regarde, et la seule différence notable, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai pas, en tout cas, de consigne de se dire qu'il faut faire un multiple d'EBITDA. Et ça change quand même fondamentalement la manière dont vous conduisez et pilotez l'école. Après, c'est ce que je dis, et parfois, j'ai ce retour-là des équipes à Audencia. C'est que effectivement on est quand même dans des logiques où il faut être à l'équilibre, voire même moi je dis gagner de l'argent pour constituer des réserves, parce que demain le modèle des écoles sera sans doute chahuté, on aura peut-être besoin d'investir aussi. Donc je pense que pour moi c'est pour ça que la différence elle n'est pas tant dans la logique on va dire de développement, mais peut-être plus effectivement de qui est votre actionnaire et quelle est la demande finalement que vous avez au niveau du conseil d'administration. Le modèle ESC, en tout cas, pour revenir sur la question précédente, en tout cas, vous permet de préserver cette forme, en tout cas, qui fait que tous vos excédents peuvent être, en tout cas, réinvestis uniquement dans un projet éducatif qui est celui de l'école, quoi. Et ça change quand même beaucoup les choses.
Et le profil des équipes de direction est le même, doit rester, enfin...
Moi, c'est ce que j'ai dit aussi à Audencia, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a noté mon arrivée, mais on a changé aussi beaucoup de personnes dans le comité de direction. Et on a fait aussi, on a renouvelé une partie du conseil d'administration et on a pris des gens qui étaient plutôt très axés sur une logique, on va dire, de développement, parce que ce qui a sans doute aussi peut-être manqué, on va dire, dans les années précédentes, c'est d'importer des pratiques. Peut-être un peu plus concurrentiel au niveau de l'école. Et on l'a vu cette année, puisque en remettant, entre guillemets, quelques bonnes pratiques, on a réussi à faire la meilleure rentrée de l'école avec près de 2800 nouveaux étudiants à la rentrée, alors qu'on était plutôt aux alentours de 2400 étudiants. Donc c'est plutôt quelque chose d'important aussi pour les équipes de voir quoi, finalement, on peut aussi recruter tout en maintenant une forme de sélectivité.
Sébastien, on arrive lentement, mais sûrement, à la fin de ce podcast, qui est court finalement, hein, ce grand oral. Il est temps pour nous de vous poser la question rituelle de fin qui est: quel conseil de lecture ou d'écoute auriez-vous à partager avec nos auditeurs pour poursuivre un peu ce dialogue ?
Alors, j'ai eu du mal à choisir, mais si j'avais une recommandation à faire, et je pense que c'est d'autant plus important dans le contexte actuel, je choisirais « Éloge du carburateur » de Matthew Crawford, que je recommande fortement. Donc, qui est quelqu'un qui a travaillé dans les think tanks aux États-Unis et qui a, du jour au lendemain, décidé de tout plaquer pour ouvrir un garage de réparation de moto.
Vous nous annoncez quelque chose, Sébastien, là ?
Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le sens du travail, le travail manuel, l'importance qu'on donne aux études supérieures. Donc, c'est en tout cas un livre que je recommande fortement aux auditeurs.
Bon, ben, c'est noté. Merci beaucoup d'être passé au Studio Module aujourd'hui. Merci à vous, Bernard. Et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.